RMC Running.
Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Et on est parti pour un dernier épisode de notre opération à l'Oka UTMB Mont Blanc. Donc je le fais avec beaucoup d'émotion, toujours accompagné de mon ami Johan Durand.
Bonjour à tous, bonjour Amine. Ah, c'est déjà le dernier.
Ah, c'est déjà le dernier.
Non.
Ah,
on est vraiment c'est passé à une vitesse.
C'est clair, une semaine ici à Chamonix.
Barjou.
Entouré de montagnes.
Ah, magnifique.
Magnifique.
Entre le décor, les compétitions, toutes les courses, tout ce qui s'est passé, ça a été une semaine de dingue. Ouais.
Et puis pour le dernier. Le soleil est arrivé.
Oui.
Le soleil tape.
On avait commencé lundi avec un peu de pluie lundi soir. Et là, c'est bon. C'est magnifique.
Magnifique. On va toujours débriefer donc, de l'épreuve phare de cette UTMB. Donc, l'épreuve des 100 miles où s'est illustré Ben Zeman avec un record exceptionnel sous les 19 heures. Même si
Barjou.
Le tracé a été quelque peu changé par rapport au format traditionnel. Mais ça reste...
C'est pas trop comparé parce que le tracé est un peu différent. Mais malgré tout, c'est une performance extraordinaire.
Puis au-delà de ça, il y a 10 hommes. Le top 10 est passé sous les 20 heures. Quand à un moment, on pensait que passer sous les 20 heures était presque impossible, là, tout le top 10 passe sous les 20 heures.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alors après, Virgile, notre invité, va nous raconter comment ils ont vécu cette course. Le départ avait été décalé de 2 heures pour justement éviter de les envoyer au moment où il a plu et sur la première partie un peu difficile. Ils se sont pas mouillés, mais effectivement, c'est des chronos de dingue qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. On voyait Kylian et Mathieu en 2022 comme des extraterrestres. Et aujourd'hui, ouais, le top 10, c'est moins de 20 heures. Mais le trail évolue, se professionnalise. L'amélioration, on a fait un épisode sur ça, sur la professionnalisation du trail. Et effectivement, ça en fait partie. Et du coup, les performances hommes et femmes progressent d'année en année. Ouais.
La révélation Virgile Morizet de cette UTMB Mont Blanc est avec nous en plateau. Salut Virgile.
Salut, merci de me
recevoir. Magnifique quatrième place pour un premier 100 miles ici à l'Oka UTMB Mont Blanc. C'est juste stratosphérique. On va revenir sur ta course juste après. On aura également dans ce podcast Théo Détienne et Arthur Joyeux-Bouillon qui ont fait des courses un peu compliquées pour leurs ambitions. Mais justement, l'Oka UTMB Mont Blanc, c'est aussi ça. C'est des performances exceptionnelles.
C'est des histoires à raconter. Donc, ils vont venir nous raconter
exactement.
Ça.
Ouais. Quand le corps lâche, la tête est toujours là. C'est parti donc pour un nouveau débrief. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est un nouveau podcast de l'Oka UTMB Mont Blanc. On remercie évidemment Oka, partenaire de cet épisode. Virgile, magnifique quatrième place. Comment vas-tu?
Ça va.
Un peu courbaturé.
Un petit peu, ouais. Mais ça va.
Il marche à peu près bien pour un.
Ouais, mais ce matin pour me lever, c'était pas.
Ok, là ça se dérouille un peu.
Ça commence à dérouiller, ouais. Justement, je suis au deuxième étage à l'hôtel, donc j'ai pas trop le choix sans ascenseur, bien sûr.
Sans ascenseur.
Voilà. Comment tu descends les marches alors?
Alors, je me tiens
à la
sur la barrière d'un côté, sur le mur de l'autre, et voilà, je me laisse glisser gentiment.
C'est assez fou, hein. C'est musculairement, les traces que ça laisse, 170 bandes diminuées de dénivelé. Faut se rendre compte, hein.
4 fois plus de distance que sur marathon.
Ah oui, bah oui, vu comme ça, et puis 10 000 mètres.
Pas roulant le marathon. Ouais. En plus, hein.
Avant de parler de ta performance, on va parler donc de la perf de Ben Zeman. 18h16min29s, c'est juste stratosphérique. Quand à un moment on pensait que ne pas passer sous les 20 heures, là on est passé carrément sous les 19 heures et pas d'un peu. Ouais. Comment on explique cette performance? Alors Ben, c'est pas un nouveau. Il est là depuis un sacré moment, ça fait longtemps qu'il court après cette performance, mais là il a carrément explosé tous les temps.
Ouais, c'est clair, je savais que Ben était. On savait tous que Ben était très en forme, très préparé, même mentalement, il était d'un calme à l'hôtel, on voyait, enfin, moins de Shaolin. Quoi.
Ouais.
Alors qu'il était très sollicité, ça lui glissait dessus, il n'y a aucun problème, il répondait à toutes ses obligations, pas inquiet. Et ensuite, donc le fait qu'on ne soit pas passé par les pyramides calcaires, ça a enlevé une trentaine de minutes. Donc, si on revient à son temps final, c'est comme s'il était passé sur le parcours initial sous les 19h. Donc, c'est incroyable. Voilà, après, les conditions météo étaient idéales, honnêtement. Pas de pluie, nuit pas froide non plus.
Pas trop froide.
On a très bien thermorégulé, journée pas excessivement chaude non plus. Donc, ça peut expliquer une partie du. La fin de course où on ralentit peut-être un peu moins que s'il faisait 40 forcément. Mais après, juste, je pense qu'il y a des effets qui se coulent de la professionnalisation, les méthodes d'entraînement qui changent, le matériel aussi qui évolue. Quand on voit les chaussures que portait Xavier Thévenard quand il gagne avec ASICS comparé
à celles que vous avez aujourd'hui,
c'est
ouais.
N'importe quoi. Enfin, on a 4 cm de semelle, plaque carbone, à 4 kilos on est sur des coussins, donc ça aide. Hein.
On a fait un épisode là-dessus justement sur les explications de la densification du haut niveau. Et comme explique très bien Virgile, l'équipement, la préparation, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles les performances explosent.
La professionnalisation des athlètes, avec plus d'athlètes pros qui peuvent partir en stage, qui peuvent s'entraîner, qui peuvent avoir vraiment beaucoup plus de temps pour se préparer en montagne. Effectivement, l'équipement, on le voit aussi sur la route, hein, c'est ce qui a permis aux coureurs aujourd'hui de faire moins de 2 heures au marathon ou de battre tous les records sur la route avec ces nouvelles mousses et ces plaques de carbone. C'est pareil en trail, ça a mis un peu plus de temps à arriver parce que le problème des nouvelles mousses, c'est qu'elles sont assez instables et que c'était dur à trouver. Aujourd'hui, je pense que ASICS et beaucoup d'autres marques ont trouvé des chaussures qui correspondent à ce qu'ont besoin les trailers pour avoir suffisamment de stabilité et de renvoi et d'accroche. Et puis après, voilà, c'est les data, toutes les infos qu'on a aujourd'hui, la professionnalisation du sport qui explique toutes ces performances. C'est un grand barnum, l'UTMB, c'est un univers médiatique avec beaucoup de marques, beaucoup de sponsors, et effectivement, ça tire tout le monde vers le haut. Et en plus Ben a battu le record en courant quasiment tout seul. C'est ça aussi qui est monstrueux, c'est qu'il a fait la course de son côté à son allure et il en a toujours mis, même avec 40 minutes d'avance, il continuait à courir à son rythme alors qu'il aurait pu lever le pied.
Il avait l'air très très affûté. On a vu une photo les jambes de Ben juste avant le départ.
Je me demandais si c'était pas de l'IA tellement c'était c'était sec. C'était hallucinant.
Il est extrêmement affûté. Pour tout vous expliquer sur le son, la ville de Chamonix, la fin de l'épreuve de l'UTMB parce qu'ils ont décidé de sortir toutes les cloches.
Non, c'est l'heure de la messe.
C'est l'heure de la messe, c'est exactement ça. Virgile, donc tu finis 4e de la course en un peu plus de 19h. 23 secondes de plus,
c'est ça.
C'est juste stratosphérique. Et on le rappelle, c'est ton premier 100 miles ici à l'UTMB Mont Blanc. Comment tu t'es senti pendant cette course? Parce que bon, faire 19 heures sur son premier UTMB Mont Blanc, c'est juste exceptionnel.
Ouais, je me suis quand même senti plutôt bien. Paradoxalement, le deuxième tiers de course où je me suis senti le mieux.
Ouais.
Le premier tiers, disons, après la descente du col de Vosges, j'avais déjà les quads explosés. Je me suis dit, oh, ça va être long quand même, parce que là, t'as fait 22 bornes, t'as déjà très mal aux jambes, c'est mal embarqué cette affaire. Et au final, avec la montée du col du bonhomme, ça s'est délié, je suis rentré un peu plus dans ma course et j'ai passé une nuit vraiment superbe.
C'est lié à la fin de ta prépa qui a été un petit peu perturbée et que du coup, le temps de remettre la machine en route et que le corps se réadapte, il faille un peu plus de temps.
Ouais, je pense qu'il m'a manqué quelques séances, notamment de descente spécifique, pour adapter le corps à descendre sur des allures rapides, soutenues, de manière continue. Et c'est clair que j'ai pas eu une prépa 100% idéale, ni une saison 100% idéale avant l'UTMB, ce qui a peut-être expliqué ces sensations un peu bizarres.
2 semaines avant la course, t'as même hésité à prendre le départ?
Ouais, exactement, parce que j'ai fait une grosse chute à l'entraînement sur ma dernière sortie longue où je suis tombé de plein fouet par terre et je me suis pris un gros caillou sur le quad.
C'est fou, hein.
Sur le moment, j'ai cru que je m'étais cassé le fémur. J'ai dû marcher 8 km en boitant pour rentrer à l'hôtel. Le lendemain, je pouvais pas courir. Le surlendemain, je boitais. Ça a été très très compliqué. Et au final, tout s'est amélioré pile poil.
C'est fou, c'est un peu la même histoire que Blandine qui était un peu dans le doute avant l'UTMB, avant le départ de la course, et puis au final tu te rends compte que ils ont fait du frais. Alors mentalement, effectivement, ils se sont vus par prendre le départ, alors de se dire qu'ils étaient sur le départ, ils ont tout lâché pendant la course, et effectivement après ça donne des belles surprises. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire qu'on change d'époque dans le trail, ultra trail, quand on voit que faire 19h00 avec un parcours normal, peut-être 19h45, on finit seulement 4e
20h quand même, hein.
De la course?
Je sais pas, parce que pour moi c'est vachement progressif quand même, ça s'est fait sur plusieurs années, on voit maintenant chaque année les records ils tombent quasiment coup sur coup. Donc je pense que c'est comme dit Johan, c'est linéaire dans le temps. Après c'est clair que cette année c'est assez exceptionnel quand même, top 10 en moins de 20h c'est fou.
Ouais.
Et après concernant la 4e place en 19h, ça aurait pu être 2e, 3e, voire vainqueur l'année précédente, mais bon c'est. Ce qui compte, c'est la place plus que le chrono. Enfin, pour moi, voilà. Et après savoir qu'on n'est pas loin, que je suis à moins de 20 minutes de la deuxième place, c'est satisfaisant.
Et t'as eu un départ prudent, t'as stabilisé autour de la 34e, 35e place, et avant de grappiller place par place, notamment sur la deuxième partie de course, et finir 4e, c'est juste énorme. C'était une stratégie, ça, initiale, de partir plutôt lentement, ou t'as été battu entre guillemets par tes sensations de début de course, comme tu l'expliquais?
C'était prévu de partir plus doucement que ce que les autres font, parce qu'en général les autres ils partent trop vite. C'est pas un secret, hein. De toute façon, on voit bien, je veux dire, c'est quand tu pars avec Ben Diman et que t'es pas Ben Diman, tu pars trop vite.
Tu pars trop vite.
Enfin, sauf si t'es Tom Evans à la limite. Et je suis pas Tom Evans, clairement. Donc, clairement, un départ prudent était de guise. Et ouais, c'est clair que même mentalement, je pense que c'est vachement plus facile d'être dans une dynamique de Pac-Man, comme on dit,
de ramasser,
rattraper les morts, que de partir au rupteur et se dire, se retourner tout le temps, savoir si le mec il revient, combien de temps je suis. C'est mentalement, c'est vachement important, surtout sur des épreuves aussi longues. Si mentalement t'es pas bien du début à la fin, alors forcément on a des coups de moins bien, mais si t'es pas dans une bonne dynamique, ça peut être très compliqué de finir. Ouais.
Là, la position du chassé, c'est un peu compliqué, c'est prendre des risques. Hein. C'est, si t'es dans la résistance au bout de, que t'arrives à mi-course et que t'es déjà dans la lutte pour résister, pour pas te faire bouffer, c'est pas évident. Donc effectivement, le choix de sa stratégie de course et de son pacing sur la première partie, c'est super important sur toutes les courses. Mais dans un ultra, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, il y a ce côté mental que quand tu ramasses les gars les uns après les autres, bah, tu te sens volé, ouais.
Comment tu abordes mentalement cette course? On le disait, donc tu as une fin de préparation un peu tronquée. Tu reviens ici à Chamonix, là où tu as dû abandonner l'année dernière sur une autre épreuve. C'est compliqué de revenir sur ces lieux, sachant que c'est une nouvelle discipline avec une fin de préparation tronquée et où tu as eu un DNF l'année dernière.
Ouais, clairement, c'était pas évident. Après, j'étais dans des très bonnes dispositions mentales la semaine avant. J'étais très content d'être à Chamonix avec les copains à l'hôtel, beaucoup plus détendu que l'année dernière. Donc rien que ça m'a mis dans une disposition avant le départ. Et après, l'objectif, c'était finir la course. Peu importe, on a tous le même objectif. Pour gagner, il faut finir. Donc moi, l'objectif, c'était finir la course. Et tout le long, je me dis, de toute manière, la seule chose qu'il faut, c'est finir. Après, le plus vite possible, si on peut. Mais il faut finir, donc c'est le principe de l'ultra, quoi.
Et voir Chamonix, sachant qu'on est dans le top 5, c'est juste exceptionnel. Raconte-nous ce dernier kilomètre.
C'est exceptionnel, honnêtement, je pense qu'on se rend pas compte du monde qu'il y a, c'est incroyable. Après, on est tellement dans le brouhaha depuis la flégère, même la descente, que ça a diminué un peu l'effet. Voilà, on n'entend pas Chamonix gronder en bas, et aussi je pense qu'il y a un effet lucidité qui est plus très présent à ce moment-là.
Ouais, c'est
mon cas, en tout cas, j'étais plus très bien. C'est clair que ça joue, mais ouais, c'est exceptionnel, parce que moi, c'est des images que je vois depuis que j'ai commencé le trail, voire même avant, cette ligne droite à Chamonix, cette arrivée, c'est juste mythique. Et là, s'y retrouver, top 4, avec la famille à l'arrivée, c'est idéal.
Une progression très rapide, du coup, vers l'ultra. C'est dû à quoi? C'est une stratégie d'entraînement planifiée particulièrement vers cette distance-là?
Ouais, je pense que j'ai des prédispositions pour l'endurance, en général. Surtout la longue endurance. Déjà, quand je faisais du vélo, moi j'étais celui qui tenait mieux les stages d'entraînement en fin de semaine, les plus longues sorties, j'étais un de ceux qui les tolérait le mieux. Donc, et surtout, j'ai pas un gros moteur. Donc, moi j'aurais l'allure d'un Fred Tranchant sur un trail de 30 bornes. Donc, par contre, je peux tenir très longtemps une allure très soutenue. Et ça, c'est aussi ce qui explique que je peux pas partir trop vite sur l'ultra.
Oui.
C'est que si je me fais sauter le caisson, ouais, c'est sûr que je tiendrai jamais. Mais sur ultra, ouais, ça permet d'être dans un mode un peu économie d'énergie.
C'est ça, ouais. Là, c'est un peu à la Ludo Pommeret, alors.
Ouais, c'est un peu ça.
Tranquillou à ramasser.
25 ans de moins.
Ouais.
Justement, 25 ans, t'as tout l'avenir devant toi. Bravo encore, Virgile. On doit te libérer parce que bon, il va devoir gérer une nouvelle célébrité.
Ah, bah oui, quand tu fais 4,
c'est la rançon de la gloire.
Et exactement. Ouais, 4e de l'UTMB.
T'as attendu dans 5 minutes pour un nouveau point presse. Donc bravo à toi.
Merci.
Et
beaucoup.
Merci pour ces
quelques
minutes.
Merci et bravo.
Beaucoup. Au revoir.
Et on est très heureux de recevoir à notre plateau Théo Détienne. Comment tu vas, Théo?
Ça va mieux quand c'est terminé.
C'est vrai.
Salut.
Et Arthur Joyeux-Bouillon à mes côtés également. Comment vas-tu?
Après une nuit de sommeil, un peu mieux qu'hier.
Ouais, c'est vrai. On a eu Virgile juste avant vous, qui nous a un peu raconté sa course, mais aussi la densification du haut niveau avec la victoire de Ben en 18h16. C'est du jamais vu. Baptiste Chassagne également, qui finit pas loin avec un chrono record. Comment expliquer ces chronos stratosphériques? On a dit que bon, vous n'êtes pas passé par la pyramide calcaire, ce qui a pu amoindrir un peu les chronos, mais quand même, on gagne pas une heure et quart avec ce parcours un peu modifié, Arthur.
Moi, je l'ai fait trois fois l'officiel,
ouais.
Donc je peux comparer, je pense. On perd un peu de temps au début par rapport à avant, mais par contre, on gagne du temps avec les pyramides, tu l'as dit, 40 minutes, et aussi à la foulie. On prend que de la route par rapport au balcon qu'on prenait, et avec Ludo Pommeret, on estimait à une bonne dizaine de minutes de gagner. Si en plus, comme Ben, on déroule bien sur le bitume. Donc voilà, mais ça reste pour moi le record de l'épreuve si on prend ces temps-là.
Parce que même si on rajoute une heure, ça fait 19h15, 15-16 minutes, ça reste stratosphérique, Théo.
Ouais, mais le parcours, moi qui ai fait l'année dernière, justement, le parcours, est le même, justement, sauf cette modification à la foulie, qui fait gagner, comme tu l'as dit, une dizaine de minutes à peu près. Mais en fait, le parcours est vraiment identique. Il y a quelques sections un peu dans la descente de Courmayeur qui font gagner du temps, mais ça reste anecdotique. En fait, ça ne peut pas expliquer cette.
Mais les conditions météo étaient mieux que l'année dernière.
Voilà, les conditions météo étaient idéales pour la performance. C'était vraiment frais toute la nuit, on n'a pas froid.
C'est trop facile, je vous serais laissé partir à 17h45, moi.
Ah non, il pleuvait des cordes. Hein. Ah bah ouais. Mais... des cordes. Hein.
On est d'accord. Moi, je
t'aurais signé, toi, tu voulais partir. Eh ben, tu laisses partir ceux qui veulent partir tôt. Tu fais un contre-la-montre. Voilà, tu prends ton départ quand tu veux.
Je rêvais de ça, moi, que ce soit des conditions de montagnard. On fait du ski l'hiver.
Ouais.
On aurait su tirer notre épingle du jeu sur ça. Là, moi, j'ai même pas mis la veste. Je sais pas toi.
Moi aussi j'ai
t'étais
mis la veste,
bien couvert.
Moi je me suis bien couvert.
Moi je t'ai vu sur toutes les stories, les réels, t'étais capuché avec le masque également, t'avais
le
trois couvertures.
C'est ça. C'est pour pouvoir respirer de l'air chaud, sinon tu te refroidis de l'intérieur.
Okay.
Moi j'ai besoin justement de respirer de l'air chaud tout le temps.
Magnifique. Théo donc 71e de la course en un peu plus de 24 heures, fortune diverse également pour les Français. Donc t'as bien commencé la course, en tout cas tu as été stabilisé autour de la 20e place avant de connaître des problèmes gastriques notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu cette course et quel moment tes problèmes ont commencé tout simplement?
Début de course en gestion, dans le sens où j'avais les chronos que je voulais réaliser sur les sections et en particulier. J'ai commencé à être pas bien au niveau gastrique dans la montée du col du Bonhomme.
Ouais.
Je sentais que ça commençait à être pas très bien. Plus je me rapprochais de Courmayeur, moins ça allait. Je commençais à vomir. Et en fait, jusqu'au bas, jusqu'au plusieurs fois, je me suis arrêté vomir. Ouais. Et justement, au début de la descente vers Courmayeur, il y a Virgile Morizet qui me rattrape. Ouais. Et je lui dis, en fait, là, on est dans des super chronos pour réaliser un bon temps à l'arrivée. Et la course est partie super vite. Et on le voit. Je passe 19e à Courmayeur. Mmh. Il passe devant moi, je crois qu'il passe 18e. Il termine 4e à l'arrivée. Donc en fait, la gestion de course, elle a été parfaite là-dessus. Lui, il a fait une course d'adulte. Oui. C'était impressionnant. C'est des courses en gestion comme ça que tu vois plus sur des gars qui ont beaucoup plus d'expérience. Oui. Lui, c'est son premier UTMB. Donc impressionnant là-dessus. Mais ouais, j'ai commencé à être dérangé assez tôt dans la course. Je pensais que ça allait partir. C'est pas parti, on fait avec, c'est l'expérience qui entre.
On va prendre soin de vous, on va vous ramener un petit café sur le plateau.
Ah,
oh là là, bah, c'est pour moi.
La commande est passée pour moi.
Ta stratégie de course, c'était, tu l'avais vu avec Joseph Mestralet, c'était vraiment le pacing de partir plutôt prudemment.
Tout à fait. Moi, j'étais dans mes temps de passage tout du long jusqu'à Courmayeur, à une minute près. J'étais dans le temps de passage qu'on avait prévu sur le pacing plan en fait.
Ouais.
Donc la course, je savais que j'étais bien comme il fallait. Et je savais très bien que tous les coureurs qui étaient passés devant nous à Courmayeur, il y en avait pas avoir plus de la moitié qui allait sauter. Ça s'est vérifié avec Virgile, on passe quasiment en même temps à Courmayeur, il termine 4e de la course. Donc ça s'est vérifié pareil après.
Tu as tenu à finir cette course malgré donc les vomissements, malgré la maladie. L'année dernière, on t'a reçu sur ce podcast même après ta course où t'as dû abandonner après deux chutes sévères. Là, cette fois-ci, il était hors de question de s'arrêter. Il fallait finir ces courses pour toi.
Ouais, on monte crescendo. L'année dernière, j'ai bâché. Cette année, je termine. On verra l'année prochaine. Mais j'avais à cœur de terminer la course. Il y avait une ambiance de dingue, énormément de gens pour me supporter au bord du sentier. Ça m'a vraiment. Enfin, les gens m'ont donné beaucoup d'amour et j'avais à cœur de le faire. Je le fais évidemment pour moi. Et depuis l'année dernière, ça me hantait un peu de ne pas avoir pu terminer la boucle. Et je le disais même avant la course, j'ai à cœur de terminer la boucle. Et c'est chose faite, maintenant je suis content, on peut passer à autre chose et réfléchir à la suite. Mais ouais, j'ai vécu une arrivée à Chamonix comme si j'avais gagné la course, alors que j'étais 5 heures derrière le premier.
Surtout le parcours, tu t'es senti encouragé, notamment à la Flégère ou après la redescente, et ça y avait une ambiance de dingue.
Ouais, partout sur le parcours, même que ce soit en Italie, en Suisse, les gens ont fait les déplacements tout au long du parcours, c'était impressionnant et je les remercie. Je les remercie de tout cœur pour ça.
Il y avait des apnées également de ton pote Clem aussi, qui était un peu partout.
Ouais, ils étaient partout, ils m'ont suivi. En fait, ils faisaient le suivi de ma course en live sur Twitch et sur Instagram. C'est eux qui avaient mes réseaux. Et c'est eux qui s'occupaient justement du contenu. Et ils m'ont suivi justement tout au long du parcours, du départ jusqu'à l'arrivée. C'était une bonne ambiance de faire ça ensemble.
T'as trouvé les raisons et les causes de ces vomissements
Je suis encore un peu dans le flou là. On est encore à chaud. On est que le lendemain, on n'a rien changé en termes de stratégie de nutrition.
Et c'est la première fois que ça t'arrive.
Reconnaissance aussi sévère, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. C'est comme ça, on va réfléchir. Là, on laisse un peu reposer le truc, on prendra les décisions après. Mais.
Et t'es arrivé à un moment où t'arrivais plus à t'alimenter?
Ouais, en fait, après, je suis bien reparti du ravito de Courmayeur. Dans le début de la montée, Et en fait, dans la montée, je me suis arrêté vomir plusieurs fois. Et à partir du refuge Berton jusqu'au grand col ferré, impossible de m'alimenter, impossible de m'hydrater. Ah, donc je suis arrivé là-haut,
je voyais flou.
Ouais, je voyais flou. Je suis arrivé au grand col ferré, je me suis dit, ah, là, je suis obligé de m'asseoir. Il y a des images là-haut. Je me suis assis quelques minutes pour m'alimenter. Et après, j'ai mangé un peu dans la descente. C'est revenu. Sur la fin de parcours, ça allait mieux. Mais je pouvais, dans tous les cas, pas forcer comme je le voulais.
Arthur aussi, tu as connu une course un peu délicate aussi physiquement, à cause d'une chute notamment, et ensuite des contractures musculaires qui t'ont même parfois obligé de marcher sur des sections où tu aurais voulu courir.
Oui, bon alors, c'est pas moi qui ai dit la chute. J'ai pris un beau plat ventre, c'est vrai, mais c'est pas ça qui a... Ça, je suis plus ou moins habitué à tomber. Okay. Ça m'a pas... Non, c'est pas une excuse du tout. Hein. Non, c'est que... J'étais venu pour la première fois beaucoup moins entraîné que les autres années. J'ai fait 70% de moins de course à pied depuis janvier. Donc je savais que physiquement c'était quitte ou double. J'ai pris le départ en me disant je reste en dedans et on finit. L'objectif c'était finir. Quand j'ai vu que, je pense avec l'expérience, avec la connaissance du parcours qui est très long, je remontais dans le top 10. Je me suis mis en tête, bah voilà, quatrième top 10, voilà, je commençais à avoir les étoiles dans les yeux. Et puis, bah, pas désillusion, mais mon corps m'a lâché à la foulie. Ouais. J'ai pris une énorme contracture au quadri gauche. Et du coup, en compensant à droite, j'ai pris une...
Deuxième.
sur la voûte plantaire à droite, plus à l'intérieur du genou, sur le début du quadri. Donc, c'est peut-être celle-là qui m'a le plus gêné après. Et bah là, j'ai eu tout faire pour manger du sel, tout. Quand c'est contracturé,
tu peux pas faire grand chose. Voilà. C'est fou, ça, ces contractures pendant la course qui te minent en résultat. Ah bah finalement.
Et puis surtout que c'est pas son premier, premier trail, quoi. C'est quand tu découvres la distance et que tu arrives avec sans un passif d'ultra trailer ou autre, tu peux comprendre. Mais là, effectivement.
C'est la première année où je fais si peu de volume.
Ouais.
Et en fait, je pense que pour jouer un top 10,
t'es obligé.
Bah, en fait, il faut manger de la descente. Pourtant, je suis un descendeur, j'adore descendre. Mais il y a un moment où les muscles, au bout de 120, en fait, ça a tenu 120 km.
120 bornes.
Ah, c'est sûr que pour jouer encore le top 10, maintenant, vu la densification,
vu la vitesse,
au niveau, faut se réveiller tôt le matin.
Par contre, je rejoins Théo. Moi, j'ai vécu la plus belle ligne d'arrivée de mes 4 éditions. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs d'arriver en se disant, alors oui, comme Théo, j'ai fait ma course et je l'ai fait pour moi, donc je suis juste fier d'être arrivé, mais de voir qu'il y a plus d'ambiance que quand je fais top 10.
Non, mais c'était
et surtout que c'est la première année où je pleure, je lâche,
tu prends les émotions, ouais.
T'es allé loin. On est allé piocher loin, je pense.
Ouais, c'est ça, hein.
Moi, j'étais jamais allé piocher si loin sauf à la Diag.
Ouais.
Donc en fait, c'est contrasté, quoi.
Ouais, il y a une fierté de finir et d'avoir puisé.
C'est
et
ça.
Puis la déception
et une
du
déception
chrono.
De se dire il y avait quelque chose à faire quand même, que mon corps m'a pas laissé faire. Quoi.
On le rappelle, une 60e place pour toi, Arthur, sur cette course-là. Et on va reparler également de l'ambiance. Nous, on était un peu placés dans les hauteurs de Chamonix. On avait une vue parfaite pour voir l'ambiance et les arrivées. C'est vrai que pour toutes les courses,
c'était
notamment
la folie,
pour les Français, c'était exceptionnel. On voyait des gens pleurer même sur les arrivées de Blandine, de Baptiste, de Virgile également sur les premiers, mais aussi
les
pour
émotions.
Vous un peu plus tard. Et ça, c'est fou. On a l'impression qu'ici, à Chamonix, on peut vivre ce genre d'ambiance, Théo.
Bah, tu l'as dit, les Français, en fait.
Ouais.
Même s'ils adorent les athlètes comme Courtenay et tout, enfin, durant les 23-24 heures de course, on entend nos prénoms tout le temps. Et des gens qui nous disent merci pour ce que tu fais, on t'adore, mais en fait ils se rendent pas compte à quel point ça nous booste, parce que ça permet d'aller de point en point et de se dire il y a encore des gens à qui je vais faire plaisir juste de passer. Et moi à Chamonix, c'est ça, je me dis je peux pas ne pas aller plus loin, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous connaissent en tant qu'athlètes français.
C'est vrai qu'il y a une ferveur qui est folle, et en comparaison, je pense que toi tu dois l'avoir aussi par rapport à la première édition que tu as faite de l'UTMB. Moi je l'ai fait juste l'année dernière, et là cette année j'ai encore vu plus de monde
dessus,
c'était vraiment encore un step au-dessus. L'année dernière on avait vraiment une vraie grosse haie d'honneur jusqu'au rond-point de Chamonix, là, kilomètre 1. Mais là, cette haie d'honneur, elle a continué jusqu'au bout, jusqu'à la route des Gaillants. C'était impressionnant. Il y avait du monde encore plus loin. C'est monté encore crescendo. Et cette année, c'était impressionnant. La ferveur des gens, l'amour qu'ils nous envoient, les encouragements. Ils font des panneaux, des fancards, des drapeaux. C'est incroyable. Merci à tous. Hein.
Et qui attendent des heures et des heures.
Enfin, ouais,
ils ont le premier Ben à 17h, ouais. Et enfin, il était même 15h, après, ouais. À vrai dire.
Non, on est passé loin après.
C'est ça,
4h. On est passé loin après Manille. Hein.
Ils étaient encore là.
Et 4h après, ils étaient encore là. Donc, ça, c'est assez fantastique. On peut parler de réussite finalement populaire ouais. Pour cet événement-là. On est bah, oui. Sur le dernier jour où on enregistre ce podcast. C'est assez fantastique là-dessus.
C'est une réussite populaire, alors ça plaît pas à tout le monde. Hein.
On aurait pu convier le maire de Chamonix.
Ouais, bah, il était peut-être là, non discuter. Je sais pas. En tout cas, ouais, une vraie réussite. Bah, Blandine le disait, même en haut de la Flégère, elle était surprise qu'il y ait encore autant de monde. D'habitude, les gens descendent pour voir l'arrivée des premiers hommes, et là, ils étaient restés là-haut, et c'était aussi dingue. Donc, ouais, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé comme Théo qu'il y avait encore plus de monde que l'an dernier. Voilà, effectivement, ça dérange un petit peu certains, le calme de Chamonix, mais voilà, ça va. Demain, ça sera plus calme. Hein.
Mais quand on voit tous les sourires, en fait,
bah c'est ça,
de
c'est
milliers
des émotions.
De personnes, je
tu
vois
peux pas enlever
trop
ça.
Comment on peut dire que c'est pas une réussite ou que ça gêne.
Ouais.
Juste, on envoie des bonnes ondes, on reçoit des bonnes ondes, les gens sont tous heureux.
Exactement.
Voilà, après, le sport grand public, c'est aussi des gens qui se déplacent. Mm. Comme le Tour de France en fait, et je vois pas comment on peut faire quelque chose de 100% parfait
comme le VTT OG la semaine dernière.
Exactement.
C'était Barjo aussi, c'est le sport c'est les émotions, et là il y a quoi à part du sport et des émotions? T'as des gens qui pleurent parce qu'il y a une nana qui a fait qui court. Tu t'imagines le truc?
C'est... On parle beaucoup de préservation de l'environnement, et alors l'organisation fait beaucoup, notamment met en place des navettes pour faire en sorte que tout le monde ne prenne pas sa voiture personnelle et désengager les vallées de Chamonix. Mais c'est vrai qu'au total, on retient l'ambiance, on retient les femmes qui pleurent, les petits-enfants. Moi, j'en ai vu des petits de 3-4 ans être portés sur les épaules de leurs parents et voir vous, athlètes, passer. Et ça, c'est assez fantastique. On voit des gens venir de très loin, d'Asie, pour venir faire cette épreuve-là. On en a vu beaucoup. Du Vietnam, de Chine, du Japon, et ça, c'est assez exceptionnel.
Faudrait voir la statistique, mais en termes d'athlètes étrangers sur l'UTMB, mais je pense qu'on n'est pas loin du 50-50 entre athlètes étrangers.
Il y a 128 nationalités différentes, mais j'ai pas le rapport exact entre
ça,
les athlètes français et étrangers. Donc ça, c'est assez fou. On s'est aussi dit une autre chose concernant le succès populaire avec Yohan, c'est à quel point ça vous gêne, vous, ou pas, le fait que les gens courent juste à côté de vous pendant la course.
Ça, tu me posais la question.
Notamment à la Flégère, pour Blandine, elle a dû redescendre. Et bon, elle était portée par vraiment 30-40 personnes qui couraient juste derrière elle. Mais parfois, elle prenait le bâton et c'était un peu compliqué pour elle.
Et elle disait qu'elle était frustrée de ne pas rendre ce que les gens lui donnaient. Tu vois, un petit sourire, un petit truc. Ouais. À un moment donné, elle était tellement en mode robot qu'elle était dans son truc. Et est-ce que vous avez senti ça, et c'est gênant pour vous?
Les gens sont respectueux, ils font attention de ne pas gêner, pas toucher, pas pousser ou autre. Après, c'est sûr que moi, j'étais pas dans la même configuration de Blandine où elle allait vraiment chercher le plus loin possible. Donc, c'est sûr que tu peux pas rendre ses sourires. Et même moi, je vois des images des fois aussi. Quand je passe à Saint-Gervais, il y a des enfants qui tendent la main.
Et tu fais pas attention.
Il y a une vidéo où justement je me suis fait tacler là-dessus. On me voit, en fait, j'étais en train de sortir mes bâtons. Il y avait deux petits qui me tendaient la main. Du coup, j'ai pas pu leur taper la main. Et dans les commentaires, je me suis fait assassiner. Donc. Mais non, c'est sûr qu'en fait, quand t'es dans ta bulle, c'est tu peux pas rendre.
Sur 170 bandes, tu peux pas taper la main de tout le monde.
C'est compliqué de taper dans la main de tout le monde, de sourire à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que ça doit être dur aussi. C'est une petite frustration pour elle, mais après elle le rend bien au-delà à travers ce qu'elle procure comme émotion sur la ligne d'arrivée avec la course qu'elle fait. Moi, j'étais pas dans la même configuration, donc j'ai eu le temps de plus discuter avec les gens, d'échanger, et justement c'est des souvenirs que je garderai pour toujours, et je les remercie entièrement pour ça.
Moi j'aime bien j'ai toujours bien aimé par exemple Notre-Dame de la Gorge. En fait, ça me fait dire que on fait un sport populaire. Et en fait, je me suis jamais dit que ça me ralentissait dans ma course, surtout. Voilà, mis à part peut-être là, un caméraman qui s'est glissé entre le coureur devant et moi, alors que j'étais en train de doubler le coureur. Voilà, bon, ça c'est même pas le public, c'est le vidéaste. Donc le public, moi, m'a jamais posé problème. Au contraire, je trouve que ça me porte,
ça te
surtout
boost,
dans les moments pas bien. Et à l'inverse peut-être de Blandine, je suis conscient, peut-être parce que j'ai été aussi de l'autre côté, que juste la présence de l'athlète, c'est déjà leur rendre. C'est-à-dire, on est arrivé jusque-là. Maintenant, à nous juste de continuer. Et puis, ce sera les remercier comme ça. Puis, les petits qui tendent la main, forcément, comme dit Théo, on peut pas tous leur taper dans la main. Surtout qu'il faut savoir que ça nous met à chaque fois un recul.
Ouais, un petit un recul, ouais.
Donc,
ouais, parce qu'on passe vite. Hein.
Voilà.
Surtout non, moi sur la fin de course, c'est bien.
Par contre, bah, quand forcément on voit des petits groupes comme ça épars nous tendre la main, moi c'est impossible de ne pas checker si je peux le faire. Mmh. Parce que bah, quand on est enfant, ça nous fait rêver. Hein. Ouais. Si ça peut leur donner envie un jour de.
T'as les mains pleines de gel bien collantes là, tu.
Je me lavais les mains quand même à chaque fois.
Ouais, c'est bon.
Et dans les rivières.
Il avait son gel hydroalcoolique. À chaque fois qu'il tapait dans une main, il remettait un coup de gel.
En prévention.
Comment vous rebondissez d'échecs relatifs? Alors, pour le coup, vous faites des finishers tous les deux. Peut-être pas avec des places que vous aurez souhaité. L'année dernière, Théo, donc tu DNF. Ouais. T'avais qu'une envie, tu nous le disais, c'était de revenir. T'as préparé toute ta saison pour cet événement. Malheureusement, tu as eu des complications pendant la course. Tu as envie de revenir encore cette fois-ci, l'année prochaine, en 2027, pour remontrer de quoi tu es capable?
Je sais pas si je reviens l'année prochaine, mais en tout cas, c'est sûr que l'envie de revenir, si je pouvais recommencer à remettre un dossard demain, je le ferais tout de suite. Mais, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça, de voir ce qui va, ce qui va pas. En tout cas, ce que je voulais et ce dont, j'étais sûr avant la course, c'est que j'ai pas de regrets. Parce que je sais que j'ai misé toute mon année là-dessus.
T'étais en forme.
J'étais en super forme, plus que jamais, et je me suis très bien préparé. Par rapport à ça, en fait, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai pas de regrets à avoir. Après, le reste, ça appartient au sport. C'est la course d'un jour.
Ouais, c'est les aléas.
Ça arrive. Il y a un jour où ça marchera. C'était pas cette année, mais les prochaines années, on espère.
Arthur, pareil, est-ce que t'as des leviers mentaux? Comment tu réagis après un échec relatif? Est-ce que t'es du genre à remettre un dossard assez rapidement? Est-ce que tu prends le temps?
Tu vas remettre des bornes.
Ouais. C'est prochaine. Ça, c'est plus ça.
T'as pas une sortie longue demain?
Alors, moi, j'ai jamais DNF l'UTMB, mais on m'a forcé à arrêter la Diag. Mais c'est pareil.
Oui.
On parle d'échec. Moi, j'ai vécu la Diag 2025 comme un échec. Surtout que je voulais la gagner. Donc, c'est d'autant plus tu passes de très haut à très bas. Et j'ai mis très longtemps à m'en remettre, sans le savoir. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais au moins finir cet UTMB. C'était inconcevable que je fasse 2 DNF sur 200 miles. Parce que je sais aussi le chemin qu'il faut pour remonter après. Donc là, comme Théo, je suis content de ma forme quand même. Plus aucune douleur où j'en avais avant. Donc ce qui veut dire que mes blessures sont dans le passé. Et maintenant, faut bosser pour... Moi je dis toujours... J'ai pas de talent. Y a que mon entraînement qui a fait que j'en suis arrivé là. Donc je vais retourner à l'entraînement. Et puis ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Si tu t'aimes bien.
Ouais, le chrono de Benzema, il donne envie de s'entraîner là. On va beaucoup s'entraîner maintenant cette année.
Allez, c'est clair.
Ça fait mal, ouais.
Un petit mot sur le contingent français. On voit 5 Français dans le top 10 de cette UTMB, tous finissent en moins de 20 heures, c'est juste historique. Ça montre aussi qu'il y a une émulation dans le sport français et dans l'ultra trail français, Théo.
Ouais, et ben, y a une vraie émulation et ça fait plaisir de voir aussi, même c'est des jeunes générations.
Des jeunes aussi qui arrivent.
Ouais, Virgile, il a 25 ans à peine, c'est son premier UTMB, donc l'avenir qui lui est réservé, je pense, va être magnifique. Antoine Charbolin aussi. Qui a fait une performance stratosphérique, Baptiste qui a déjà prouvé dans le passé.
Baptiste, qui continue. Deuxième, Antoine, huitième.
Ouais, Baptiste, là maintenant, il va falloir revenir encore pour la première place, donc courage à lui. Mais non, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir une telle effervescence sur ces jeunes générations. Ça pousse vers le haut et bon, c'est sûr que ça va me pourrir la vie un peu à moi, mais ça fait partie du jeu, c'est le sport.
Ouais. Moi, je trouve qu'il y a comme dans beaucoup de sports, on a vu par exemple l'athlète et tout ça, il y a des barrières qui sautent.
Oui, des barrières mythiques. Voilà,
et ça me permet à la courbe de d'un coup décrocher.
Pam. Exactement.
Et là, on est dedans.
Il suffit qu'il y ait un mec qui s'y engouffre pour que tout le monde derrière.
C'est incroyable. Moi, je trouve que ça fait 2 ans que là, les performances de course en course, on se dit, mais en fait, ça va aller
où on peut aller.
Avant, on gagnait l'UTMB en 21h30, 35. Maintenant, on sort du top 10.
Oui. Ouais. Un top 10, c'est moins de 20h maintenant.
Ouais, c'est ça. Donc, si on rajoute les pyramides calcaires, tu vois, tu sors du top 10. Bah alors ça, moi ça me motive énormément forcément, mais ça fait aussi prendre du recul sur quoi changer dans l'entraînement. Est-ce que faut être novateur? Est-ce que faut aller sur d'autres courses aussi quand on a 10 ans de carrière, des courses plus longues, plus d'expérience? Je sais pas trop encore vers quoi je vais me tourner, mais ça motive.
Ouais, c'est
Mais comme tu le disais, effectivement, il y a des barrières mythiques qui sautent. Moins de 2 heures sur le marathon, au Tour de France, on voit des cols, des records sur les cols absolument explosés, avec notre ami Paul Sexas, qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est fou. Et ça s'émancipe également sur tous les sports de manière globale. Et de quoi est fait l'avenir?
Ah bah ça, on ne sait pas. Hein. Mais non, mais la professionnalisation, c'est l'épisode qu'on a tourné hier sur la professionnalisation du trail et tous les aspects qu'on a mis en avant sur cet épisode-là, c'est
l'équipement, la nutrition, la préparation physique.
Et aujourd'hui, voilà, ça tire tout le monde vers le haut, que ce soit chez les gars comme chez les filles. Mmh. Et les chronos sont stratosphériques. Et du coup, tu dois faire, en tant qu'athlète professionnel et de haut niveau, tu peux plus faire une micro-erreur, tu peux plus faire d'erreur dans ta prépa, tu dois tout planifier. Et comme Arthur le dit, bah là, il va falloir qu'il ait une bonne réflexion sur savoir comment faire pour revenir en 18 heures maintenant.
Ouais, alors 18h je pense, vu mes qualités
bon,
de coureur
heures.
À pied, faut que je change de course, plus que je fasse l'UTMB mais la TDS. Mais après, comme tu dis, ça c'est bien, ça fait se poser des questions, se remettre en question aussi, avec la vie de famille, quelles concessions on est prêt à faire aussi. Parce que c'est ça, hein, à quel prix on met les 18h30 de l'UTMB. Et ouais,
c'est une question qu'on a posée dans ce podcast. On a fait un podcast dédié sur la densification du trail et dans le sport de haut niveau. Et on se disait, mais jusqu'à où on va, jusqu'à où on peut sacrifier sa vie pour de la perf? On a eu Mathieu Blanchard qui commentait l'épreuve de l'UTMB en direct et qui disait, est-ce qu'en tant que société, on préfère un athlète qui fait une fois moins 19 heures, quitte à sacrifier un peu sa vie,
et plus jamais le refaire,
plutôt qu'un athlète qui fait 20 ans d'UTMB et qui aura prôné justement la bonne santé mentale et physique autour de cette épreuve? Qu'est-ce que tu penses justement de cette course à la performance, Théo?
Dans tous les cas, je pense que oui, t'es obligé de faire des sacrifices pour arriver au très très haut niveau. Ça c'est valable dans tous les sports. Hein. Je pense que il y a des sports où je pense que ça laisse encore moins de place au hasard. Bah, notamment des sports comme le cyclisme, hein, où il reste employé des équipes et bah, t'es forcément beaucoup plus en stage. Nous, les stages, on peut gérer. La plupart des athlètes, on habite tous en montagne, donc on peut facilement s'entraîner autour de chez nous. Dans le vélo, ils sont obligés de faire des stages à droite à gauche toute l'année. Moi, personnellement, ouais, je prône plus ce côté d'être capable de tout concilier. Est-ce que ça, je serais capable d'être performant longtemps? Enfin, pour l'instant là c'est que le début, mais moi c'est un peu plus ma philosophie d'être capable de tout concilier et d'être épanoui là-dedans que de sacrifier toute ma vie et de mettre de côté 100% de ce que je fais à côté pour une performance.
Bien sûr.
Un
one shot et après c'est terminé.
Parce que la question sous-jacente c'était, est-ce que tu es prêt à gagner un UTMB quitte à ne plus en recourir un jour? C'était un peu ça.
Je pense pas.
Non.
non. Même. Moi, j'ai plus une vision comme un Ludo Pommeret qui fait
du
bien
plaisir sur le long terme.
Sur du long terme. Et oui. On le voit, il était capable de concilier tout ça durant tout le long de sa carrière. Donc, c'est sûr que ça fait rêver. Hein.
Magnifique. Merci, Arthur.
Ouais, avec plaisir. Puis, pour rebondir là-dessus, il y a un livre, Champion dans la tête.
Oui. Je l'ai lu.
Tu l'as lu? Dedans, ils disent que, alors, ils n'ont pas forcément raison, mais qu'un vrai champion, c'est quelqu'un qui arrive, en fait, au fil des années, à rester sur une ligne haute. Pas forcément tout le temps gagner, mais être un bon mauvais. C'est-à-dire dans les coups de moins bien, savoir être quand même pas si mauvais. Pas faire un UTMB en 60 heures, quoi.
En
24, je pense que c'est être bon mauvais.
En 24, c'est très bien.
On a été bon dans mauvais jours, quoi.
Voilà.
Et
avec ce que vous aviez.
C'est ça. Je pense que c'est une belle philosophie qu'a, par exemple, Ludo Pommeret. Et un autre niveau, mais Kylian. En fait, il est toujours là, 15 ans après, François Daen aussi. Et pour moi, c'est ça les champions.
C'est ça l'exemple, ouais.
Exactement, c'est pas un one shot, même si je respecte énormément, hein, parce que il a dû faire des concessions énormes cette année, beaucoup de sacrifices. Ouais. Et puis en plus,
il a changé sa stratégie d'entraînement.
J'ai vu les semaines qu'il a fait. Ouais.
Ça fait mal à la tête.
Donc on peut que le saluer. Et d'autant plus que lui, il dure aussi, mais c'est pas un one shot.
Là, c'était son année, là, j'ai l'impression.
C'est clair. C'est clair. Deuxième l'année dernière avant de s'imposer ici pour l'édition 2026.
C'est pire que s'imposer.
Et tout seul, il y aller tout seul.
Il a fait vraiment sa course.
Faut le saluer quand même, c'est qu'avant la course, il a dit je viens
pour gagner.
Il s'est automis une pression énormissime.
Ouais.
Il fallait qu'il soit là le jour J.
Et après l'année dernière en plus. Je pense qu'il avait vraiment ce goût de se dire que cette année c'était pour lui. Bah, il a pas laissé de place au doute.
Non.
À Courmayeur, il y a personne. Ouais, non, si, après, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, pour le coup, ça a passé bien comme il fallait.
Ça a tenu jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, et je pense que si on lui a rajouté 20 bandes, ça ne lui aurait pas posé de problème.
Ah, on l'a vu débouler ici à Chamonix, incroyable.
Incroyable. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
On remercie également Virgile qui est passé juste avant pour ce débrief de l'OKA UTMB. On remercie également OKA d'avoir été partenaire de cet épisode. C'est la fin de notre semaine, Johan.
Oh non.
On conclut avec un peu d'émotion.
C'est ça. Oh non, je veux pas partir.
L'opération OKA UTMB Mont Blanc est terminée.
Oh non.
On aura abordé plein de sujets.
Tu me déçois.
Ouais, des doigts.
Je pensais qu'on aura un petit podcast. Un bêtisier, on va sortir.
On va se faire une belle discussion au café si tu veux.
Allez, go.
On l'enregistre.
On va aller, on va aller avec
on
eux.
On met ça en ligne. Merci à tous. Vous pouvez retrouver également tous nos épisodes sur la chaîne YouTube RMC Running. On vous prépare plein de surprises pour la deuxième partie de saison, notamment avec Johan. Et pour finir,
oui, aussi.
Toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.